Merci. Et bonjour. Heureux d'être avec vous après ce temps de vacances et que vous soyez aussi revenus de vacances, en tout cas la plupart. On va continuer dans le livre des Actes aujourd'hui, dans Actes 5 et 6. Et j'ai choisi de prendre deux textes ensemble, deux textes qu'on prend souvent séparés, mais je pense important de les prendre ensemble, parce qu'ils posent finalement une question importante. Quand doit-on agir et quand faut-il ne rien faire? C'est évidemment une vraie question. Parfois il est sage d'agir et parfois il est justement sage de ne pas agir. D'ailleurs c'était intéressant parce que hier soir, Maëva nous a fait découvrir un film qui s'appelle Le procès du siècle. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? Excellent film, qui raconte le procès d'un révisionniste, comme on dit, quelqu'un qui nie les chambres à gaz, enfin qui nie l'holocauste nazi. Et c'était très intéressant parce que le personnage principal et son avocat ont des discussions pendant tout le long du film avec cette question. Alors le personnage principal, elle veut absolument prendre la parole pendant le procès. Et l'avocat dit non, t'as certainement des choses à dire, mais ça serait contre-productif. Il vaut mieux que tu ne dises rien. Et en effet, elle ne dit rien pendant ce procès et c'est la meilleure chose qu'elle a à faire. D'ailleurs, l'avocat principal dit rien, c'est son adjoint qui parle. Bon, voilà. Mais parfois, il est sage de ne pas agir. Parfois, il faut agir. Parfois, il faut ne pas agir. Et on va voir deux textes. Le premier qui nous dit qu'il ne faut pas agir et le deuxième qui est une autre situation où justement, il faut agir. Voilà. Donc avant d'ouvrir la parole de Dieu, un petit résumé de là où on en est. Tu peux juste mettre la suite. Vous rappelez qu'on est dans le livre des Actes et le livre des Actes commence en nous rappelant que Jésus est mort, ressuscité, qu'il est au ciel et qu'il continue d'agir et d'enseigner dans notre monde au travers de son Saint-Esprit. Et il nous rappelle que le Saint-Esprit a une mission particulière, c'est nous transformer pour qu'on devienne des témoins du Christ. Et puis, je l'ai rappelé ici, un des éléments, alors c'est petit pour certains, c'est un peu mieux derrière, j'espère. Un rappel qui nous sont rappelés quelles sont les missions de l'Église. Vous verrez, ça sera important pour le deuxième texte qu'on verra. L'Église est appelée à écouter l'enseignement de la Bible, à célébrer la croix, à vivre des relations fraternelles et à prier. Voilà. L'image suivante montre un résumé du dernier passage qu'on a étudié ensemble, fin juillet, qui parlait que parfois ça arrive, on a un idéal et la réalité, elle ne colle pas à l'idéal. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Et le texte que nous avons lu nous donne une réponse, on doit montrer l'exemple. Vous voyez que c'est déjà une réponse à cette question, agir ou ne pas agir. Bon, et l'image suivante donne le résumé de la prédication d'aujourd'hui, comme ça si vous vous endormez après, vous avez quand même tout entendu. Parfois, il faut agir et parfois, il ne faut pas agir. Et le principe de base qui nous est proposé dans ce texte, alors ce n'est pas forcément facile à mettre en pratique, on doit se rappeler que Dieu agit dans ce monde. Jésus agit dans ce monde. Et nous sommes appelés à agir avec lui et dans le même sens que lui. Finalement, c'est ça le critère. Est-ce que j'agis avec Jésus comme Jésus ? Parce que parfois on peut s'agiter, courir dans tous les sens, et justement être à l'opposé de ce que Jésus est en train d'essayer de faire. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Tu peux mettre la suite où il y a un court résumé du premier passage. Alors, on ne va pas le lire en entier parce que c'est un peu long. On va lire quelques passages et puis je vous raconterai le reste. Et puis vous pourrez lire chez vous, évidemment. Alors, dans Actes 5, à partir du verset 12. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans la rue, et on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, les gens accouraient en foule. pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits, et tous étaient guéris. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir, et ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Voilà, donc les apôtres finissent en prison. Durant la nuit, un ange intervient, il vient les libérer, et il leur donne l'ordre de retourner au temple. C'est un peu étrange, hein ? Ils retournent un peu dans la gueule du loup, si vous voulez, hein ? Mais ils retournent dans le temple, et ils continuent d'annoncer l'évangile. Le lendemain matin, le grand conseil se réunit et fait chercher les prisonniers. Et stupéfaction, la prison est vide. Alors, je vous invite à lire le rapport des gardes, parce que je trouve qu'il est quand même un peu croustillant. Voici ce que les gardes disent. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les sentinelles étaient à leur poste devant la porte, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Donc cette fois-ci, on va les convoquer avec prudence, avec politesse, et puis ils vont paraître devant le grand conseil. Ils vont dire en gros ce qu'ils avaient déjà dit. Vous savez que deux chapitres avant, il y avait déjà un procès. Hein. Ils disent « On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu nous demande d'enseigner la Bible, donc on le fait. » Et puis, là-dessus, on a l'avis d'un professeur de théologie qui s'appelle Gamaliel. C'est la personne qui a formé notamment l'apôtre Paul. Et voici l'avis qu'il donne. Alors, c'est au verset 34. L'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Théodas, qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelque 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et l'on n'entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas le Galiléen a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour, et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent de Dieu, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Voilà un conseil quand même assez fort. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Les apôtres sont battus, puis relâchés, on dit qu'ils sont tout joyeux et qu'ils continuent d'enseigner dans la cour du temple. Il y aurait sans doute beaucoup à dire dans ce passage-ci. Bon, mais si j'avance trop lentement, on n'arrivera jamais à la fin des actes, hein, donc on va quand même aller un peu vite. Il me semble qu'il y a deux leçons importantes dans ce passage. D'abord, un rappel très clair pour nous tous, qui appartenons au Seigneur, d'annoncer courageusement l'Évangile. Lorsque ça se passe bien et lorsqu'il y a de l'opposition. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Et la deuxième leçon, c'est qu'il y a des situations où il est sage de ne rien faire. Ouais. Imaginez-vous à la place des membres du Grand Conseil. Quelque part, on les comprend bien et on aurait sans doute agi comme eux. Ils sont irrités parce que les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu. Ils se sentent responsables du bon ordre dans le temple, et voici qu'il y a des excités qui commencent à annoncer partout que Jésus est ressuscité. On comprend, non ? Mais vous comprendrez aussi que le fait d'être irrité ne donne pas forcément, avec certitude, un bon conseil pour savoir si je dois agir ou pas. Ouais, ils sont peut-être irrités, mais il vaut mieux ne pas agir. D'ailleurs, ça va contraster avec le passage qui vient juste après, où il y a un peu des murmures dans l'église. Vous voyez, un peu des murmures. Hein. C'est beaucoup moins bruyant qu'un prédicateur dans la cour du temple. Hein. Par contre, cette fois-ci, il faut l'écouter et agir. Même si, vous verrez, que ce ne sont pas les apôtres qui vont agir finalement. Mais ici, même si ça fait beaucoup de bruit et ça les irrite, en fait, il n'y a rien à faire. Il est sage de ne rien faire. La volonté du Seigneur, c'est de ne rien faire. Ouais. Vous savez que dans mon boulot de pasteur, j'entends presque chaque jour des demandes où on me demande de faire ceci ou cela. Et je vous avoue que dans à peu près 90% des cas, je ne fais rien. Ouais. Bah oui, c'est la réalité. Il arrive souvent qu'il vaut mieux ne rien faire. Alors je ne vous dis pas que je ne me trompe pas, hein, ça m'arrive de me tromper, mais je crois qu'il est souvent sage de ne rien faire. D'ailleurs, décidément, c'était le week-end, hein, mais ce matin, en prenant le petit-déj, on écoutait Alain Baraton. À peu près, vous connaissez Alain Baraton, jardinier, hein. Il y avait des réponses, des questions des auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces réponses étaient « ne faites rien, ne faites rien, ne faites rien ». C'est intéressant. Bon. Je crois que dans tous les cas, il faut écouter, et bien écouter. Parce qu'évidemment, si on n'a pas écouté, on ne peut pas savoir si c'est sérieux ou pas. C'est peut-être basique, hein, mais il s'agit d'écouter. Et parfois, on s'agite et on agit avant d'avoir écouté jusqu'au bout. Et parfois, quand on écoute, il faut un petit peu trier. Un petit peu trier. Si on prend l'exemple des grands prêtres, ils ont des bonnes raisons d'être irrités, mais ils ont aussi de très mauvaises raisons d'être irrités. Et tout ça est mélangé. On nous parle ici de jalousie, de sentiment que leur autorité n'est pas respectée, que la peur que la foule se tourne contre eux, le fait qu'ils ont l'impression que les choses ne se passent pas comme ils voulaient. Vous voyez, c'est cet esprit de contrôle, hein. On aimerait que tout se passe comme j'ai pensé. Il y a souvent un grand mélange et il s'agit de trier. Et ensuite, il faut se demander s'il y a un vrai problème, autrement dit un problème vraiment à résoudre, et ensuite se demander qui devrait agir ou qui est le mieux placé pour agir. Vous verrez dans le passage suivant, c'est intéressant, parce que les apôtres se posent la question, qui doit agir? On y reviendra. Ou dans le film Le procès du siècle, c'est intéressant. L'avocat, il ne dit pas qu'il ne faut rien faire. Il dit simplement qui est la bonne personne qui doit agir. Comme je l'ai dit, il y a ici une mise en garde assez forte. Ne prends pas le risque de lutter contre Dieu. Voilà. Et vous savez bien, quand on est irrité, quand on a peur, quand on a été touché émotionnellement par une situation, on a parfois tendance à agir. Et peut-être, il faudrait réfléchir d'abord. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Quelques applications un peu concrètes. Bon, avec un petit peu d'humour peut-être. Dans une église que certains d'entre nous connaissent, quelqu'un vient vers moi après le culte, on va dire passablement énervé. Et il me dit, en gros, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plan qui explique comment on doit mettre les chaises dans la salle de culte ? Parce qu'effectivement, il y a 120 chaises à mettre, c'est pas simple de les mettre, hein. La salle est prévue pour 100. La personne était un tantinet énervé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bon, ce que j'ai fait moi, je pense que c'était la bonne chose, c'était lui expliquer tranquillement que ce plan existe et que ça fait plus de 2 ans qu'il est au fond de la salle. La personne ne s'est pas laissée démonter, elle dit « Mais alors pourquoi tu dis pas à tout le monde qu'il y a ce plan à la fin de la salle ?» Ouais, intéressant, hein. Vous voyez, l'irritation qui fait qu'il voudrait mieux irriter toute la salle sur des questions très pratiques qui intéressent finalement pas grand monde pour faire semblant de soulager quelqu'un qui est irrité. Vous voyez, comme on a l'impression que pour être irrité, il faudrait que d'autres soient irrités. Vous voyez cette espèce de mélange intéressant. Bon. Alors, en passant, si vous sentez visé par cet exemple, dites-vous simplement que vous n'êtes pas le seul, parce que ça m'est arrivé souvent, hein. Et en passant, pour les plus jeunes, si vos parents vous crient dessus, souvent ils sont irrités pour autre chose que vous, donc prenez pas tout non plus. Hein. Bon. Maintenant, il y a encore une suite à cette histoire-là, à cette histoire des chaises. 10 minutes après que j'ai fini de parler avec cette première personne, une autre personne vient. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? J'ai parlé avec un tel, vraiment, il était très énervé. Alors, il faut absolument que tu mettes un plomb à la fin, sortie de la, au fond de la salle. Oui, vous voyez, c'est intéressant, hein ? Voilà quelqu'un qui a entendu quelqu'un d'irrité, qui s'est dit « il faut absolument agir », Et donc, il faut absolument que le pasteur agisse. Vous voyez un peu comment on est en train, plutôt que de se poser la question, qu'est-ce qu'il est sage de faire, finalement ? Alors, c'était un petit exemple pratique, mais vous voyez, souvent, on agit et on part au quart de tour dans des situations où peut-être il n'y a rien à faire. Sinon, certainement, remercier ceux qui mettent les chaises, parce que c'est un vrai gros boulot, pénible, et je comprends qu'à la fin, on en a ras-le-bol. Vous voyez ? Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas quelque chose à agir. Comprenez ? Vous savez, en passant, quand je visite des familles, c'est extrêmement rare de rencontrer des familles où les enfants sont négligés. Par contre, c'est malheureusement très courant de rencontrer des familles où on a l'impression que les parents veulent tout contrôler dans la vie de leurs enfants et ne les laissent pas vivre. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Souvent, il est sage de ne pas agir. Maintenant, un deuxième passage. Cette fois-ci, c'est un passage où il faut agir. Alors, cette fois-ci, on va prendre nos Bibles et lire l'entier du passage. C'est Actes 6, les 7 premiers versets. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que les veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent donc Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres, qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. » Voilà, une action où il faut agir, même si on doit se poser la question qui agit en finale. L'église de Jérusalem augmente en nombre, c'est une sorte de crise de croissance. Avant tout se passait, on va dire, par des contacts personnels, tout le monde se connaît, donc voilà, la distribution ça se fait un petit peu tout seul comme ça. Mais maintenant on devient trop nombreux, on se connaît plus assez, ce n'est plus facile, plus possible de savoir qui sont les gens qui ont besoin de quoi. Il faut donc commencer à organiser les choses de manière plus formelle. C'est sans doute moins cool qu'on s'est organisé de manière plus formelle, mais c'est nécessaire si on veut avoir une certaine équité dans l'Église. Et on va organiser les choses d'une certaine manière. En fait, si on lit la suite des actes, c'est une manière qui va durer une certaine période. L'Église va continuer à grandir et il faudra s'adapter encore et changer encore la manière de faire. Maintenant, on va s'organiser pour l'Église qui est là. Je crois que toutes nos églises, et la nôtre en particulier, ont de temps en temps des crises de croissance à un moment donné ou un autre. Et il faut se rappeler que ce qui freine la croissance des églises, c'est la plupart des choses, du temps des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses qui freinent la croissance de l'Église. Et si on veut continuer à grandir, il faut trouver une autre manière de faire ces bonnes choses. Sinon, on est coincé. Distribuer des biens à ceux qui en ont besoin, c'est évidemment une bonne chose. Mais par la manière dont ils fonctionnaient dans cette Église, ils empêchaient l'Église de grandir. Il a fallu commencer à fonctionner autrement pour que l'Église puisse grandir. Vous comprenez ? C'est des bonnes choses qui, souvent, empêchent la croissance. Par exemple, pour prendre un exemple dans notre Église, il fut un temps où chacun pouvait apporter des habits ou des meubles, les poser dans un coin de l'église, et quelqu'un d'autre les prenait et repartait avec. Le problème, c'est que maintenant, on est trop nombreux, et donc ça ne marche plus. Quand quelqu'un pose un sac, plus personne ne sait qui l'a apporté ni pour qui, donc ça traîne, ça prend la poussière, et finalement, ça finit dans la benne. Vous comprenez ? Ben oui, c'est normal. Donc on est obligé d'organiser, de prendre un téléphone, de dire « j'ai des habits, est-ce que ça t'intéresse ?» et puis le passer de... Oui, évidemment, c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Mais... on n'a plus le choix. ça fait partie de l'Église telle que nous sommes aujourd'hui. Ça demande d'anticiper, d'organiser, mais ma foi, c'est ainsi. Ici, on va faire une organisation, où il y a une première organisation. La première organisation, c'était que les apôtres géraient à peu près tout. C'est ce qu'on voit au début du livre des Actes. Et maintenant, on va glisser vers un autre fonctionnement. On a un groupe de diacres qui vont gérer un peu l'aide sociale, si on ose dire ça comme ça, et les apôtres qui vont se consacrer à l'enseignement et à la prière. Le vrai problème dans l'affaire, c'est simplement une église qui grandit et il faut s'adapter. Maintenant, il faut peut-être expliquer pourquoi ça devient un problème dans cette église de Jérusalem. Parce qu'avec la croissance, il y a en fait une chose qui se passe, c'est que l'église commence à toucher des gens d'arrière-plan très différents. Ce n'était pas le cas au début. Au début, c'est des disciples de Galilée, puis des gens de Jérusalem qui se convertissent. Mais petit à petit, d'autres gens sont convertis. C'est une bonne chose, certainement. Mais ça demande certaines adaptations. L'église touche un public plus large, il faut s'adapter. Donc, pour donner un peu d'explication, il y a ici deux publics dont on parle qui sont ici en tension. Le premier public, ce sont les Juifs qui sont nés en Israël, surtout à Jérusalem en l'occurrence. L'autre public, ce sont des Juifs qui sont nés ailleurs, dans ce qu'on appelle la diaspora, surtout en Turquie à l'époque, hein, Turquie et Syrie. Ce sont des gens qui parlent grec, alors que les gens de Jérusalem parlent araméen. Ce sont des gens qui sont habitués à la culture des synagogues, alors que les gens de Jérusalem y sont habitués au temple. Oui, c'est des choses assez différentes finalement. Hein. En Israël, on le voit dans le livre des Actes, les gens qui viennent de la diaspora sont un peu comme des immigrés, même s'ils sont quand même juifs, voyez hein. Ils ont tendance à vivre entre eux, ils ont d'ailleurs même des synagogues pour eux. On parle de la synagogue des Grecs. Oui, oui, ils vivent en séparé. Maintenant, il y a une grande différence entre les veuves qui sont issues de la diaspora et les veuves qui sont issues de Jérusalem. Les veuves issues de la diaspora n'ont pas ou peu de famille sur place. Leur famille, elle est en Turquie, elle est je ne sais pas où. Alors que les veuves qui sont nées à Jérusalem ont toute leur famille autour d'eux, autour d'elles. Voyez ? Le problème, c'est pas de donner la même chose à toutes les veuves. Le problème, c'est que ces veuves issues de la diaspora ont beaucoup plus de besoins que les autres. Oui ? Ces veuves se sentent défavorisées par l'aide sociale. Vous remarquez que le texte ne dit pas si c'est vrai ou pas. On nous dit simplement que certains ont cette impression-là. Mais il y a en effet une vraie difficulté. On a là des gens qui ont des besoins spécifiques qu'on n'a pas pris en compte dans l'Église. Vous voyez qu'il y a deux problèmes qui vont ensemble. Une Église qui grandit et qui a des structures qui n'ont pas suivi. Et le fait qu'avec la croissance de l'Église, on a des gens qui viennent avec d'autres besoins, d'autres manières de vivre. Et les responsables de l'Église jusqu'ici sont tous des Juifs issus d'Israël. Ouais. Donc on pense bien qu'ils connaissent plein de veuves nées à Jérusalem. Et ils anticipent tout à fait ce qu'elles ont besoin. Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas suffisamment de veuves qui sont issues de Turquie, de Syrie ou de Grèce. Et du coup, ils ont de la peine à anticiper leurs besoins. Alors, avant de dire la solution qu'ils ont trouvée, qu'on a trouvée dans la Bible, peut-être dire que dans ce genre de situation, dans les églises, on trouve souvent des mauvaises solutions. Alors, les deux principales qu'on fait, je vais vous les dire. Hein. La première, c'est, on va trouver que c'est inadmissible que des gens râlent et se plaignent dans l'église. Et donc, on va dire le problème, c'est les tensions dans l'église. On va commencer à faire des prédications bien morales sur l'unité, sur la soumission responsable, dire combien ceux qui se plaignent déplaisent à Dieu. Vous comprenez ? On peut faire ça aussi. Hein ? La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de dire, les responsables, ils n'ont pas été compétents, il y a un problème, donc on vire tous ces responsables et on en prend d'autres. On sait aussi faire ça. Un peu moins dans les églises, mais souvent dans les entreprises. En effet, les apôtres n'ont pas vu le problème. Mais on ne va pas dire que c'est la faute des apôtres. On va dire qu'il faut quelque part qu'on adapte nos structures. Qu'on fasse venir parmi les responsables des gens qui sont capable de voir et de gérer ce problème spécifique. Vous savez, je répète très souvent, on ne peut pas savoir ce qu'on ne nous dit pas. Ouais, c'est un vrai problème dans les couples. Hein. Toutes les dames disent ça. Mais il devrait quand même savoir, sans que j'ai besoin de lui dire. Ouais. Ça arrive aussi dans l'autre sens, mais j'entends surtout des dames dire ça. Bon. Mais c'est vrai aussi pour les responsables. On nous dit ici aussi que nous avons tous des œillères. Vous connaissez ce que c'est les œillères, hein ? Les trucs qu'on met aux chevaux pour pas qu'ils soient dérangés par le bruit. Mais c'est comme ça, on est tous comme ça. On voit là, et puis ce qui est à côté, on ne le voit pas. Et nous avons besoin d'avoir d'autres gens à côté de nous qui ont d'autres œillères, mais parce qu'ils ont d'autres œillères, ils voient ce qui est à côté que moi je ne vois pas. Nous avons tous des limites et ce n'est pas grave. La question c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Dans la décision qui est prise par l'Église de Jérusalem, ils vont nommer 7 responsables qui sont tous, semble-t-il, issus de la diaspora. Tous leurs noms sont des noms qui sonnent grecs. Il y en a un où on nous précise même qu'il vient d'Antioche. Hein. Deux petites notes importantes, me semble-t-il, s'imposent. La première chose, c'est que les murmures vont vite et qu'on doit faire attention avec les murmures. Avant de colporter des murmures, c'est comme cette histoire de chaise, il faut parfois se poser un peu la question. Trouvez d'ailleurs une petite histoire que je trouvais sympa. Le lapin se plaint parce qu'il n'y a pas assez de carottes. L'âne critique le lapin parce qu'il pinaille sur des histoires de carottes alors qu'il y a abondance de foin. La poule est en pétard contre l'âne parce qu'il se permet de critiquer les plus petits que lui. Le coq a dit partout que la poule n'arrête pas de critiquer les autres. Le mouton a rétorqué que le coq se mêle de ce qui ne le regarde pas. À la fin, on ne sait plus où est le problème, mais tout le monde est mécontent. Oui, qu'est-ce que c'est, hein, les murmures ? Vous remarquez ici que les apôtres ont une grande sagesse. C'est même s'il y a un vrai problème de murmure, ils savent voir le vrai problème. Il y a des veuves dans le besoin et il faut faire quelque chose. Vous voyez ? Et parfois, nous avons tendance à nous laisser happer par un problème et on oublie, finalement, le problème le plus important, qu'il faut prendre à bras le corps et gérer. La deuxième chose à dire, c'est un peu étonnant. Parce qu'on va élire ici comme responsable toute une série de chrétiens issus de la diaspora juive. Autrement dit, on va choisir comme responsable des râleurs. C'est ça, hein ? Vous voyez, on ne va pas voir les râleurs comme des dissidents dangereux qu'il faut surtout écarter de l'Église, mais comme des personnes qui voient des choses spécifiques et donc avec qui il faut travailler. Ouais. En cours de leadership, on dit toujours qu'il faut voir positivement les râleurs. Les râleurs, au moins, ils s'impliquent. Ouais. Ceux qui râlent pas, parfois, ils s'impliquent pas du tout, c'est encore pire. Bon, voilà. Il faut valoriser la sensibilité d'autres personnes qui voient des problèmes que peut-être je ne vois pas. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut prendre tous les râleurs dans le conseil d'église. Le conseil d'église risque de devenir un peu grand. Mais qu'il nous faut absolument veiller à prendre des gens en fonction qui ont des limites, des œillères différentes, parce que c'est normal. Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des célibataires, des mariés, des parents, des grands-parents, des bleus, des jeunes, des verts, des noirs, des bleus, je ne sais pas. Différentes sensibilités spirituelles. Bah, c'est comme ça qu'on arrive à faire le service du royaume de Dieu. Quelle solution pour ce problème ? La première chose, je crois qu'il y a une diapo, la diapo suivante, je pense. La première chose, c'est de dire le problème. Le problème des murmures, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qu'ils disent. Et à mon avis, il faut le dire. On ne sait pas comment ça s'est su, comment les apôtres l'ont su, mais ils ont la sagesse de rassembler tout le monde et de dire explicitement, voilà ce qui se passe. Ensuite, ils vont envoyer l'Assemblée à sa propre responsabilité. C'est finalement à l'Assemblée de nommer des responsables pour faire ce problème. Vous voyez ce que c'est ? C'est souvent ça, hein ? J'ai un problème, mais j'aimerais que quelqu'un d'autre le fasse. Les apôtres ont cette sagesse de dire, écoutez, nous avons un problème à nous tous ensemble. Et comme c'est un problème à nous tous ensemble, il faut une solution à nous tous ensemble. Et non pas juste prendre mon problème et le balancer sur les épaules des apôtres. Ils font aussi quelque chose de très sage. c'est qu'avant de faire l'élection des diacres, ils vont rappeler quelles sont les missions de l'Église. Vous vous rappelez ces quatre missions qu'on a vues au tout début? Parce que très souvent dans l'Église, comme il y a des gens qui râlent, on saute sur autre chose. Vous voyez? On attache beaucoup d'importance à la prédication et on se rend compte que le social est négligé. Alors, on s'occupe du social. Donc, on se rend compte que l'évangélisation est négligée. Alors, on s'occupe de l'évangélisation. Parfois, on se rend compte que la prédication est négligée. Alors, on s'occupe de la prédication. Comprenez ce que je veux dire par là? Les apôtres vont dire, voici quel est le fondement de l'Église. Ne nous détournons pas des missions fondamentales de l'Église parce qu'il y a un problème quelque part. Vous voyez ces mouvements de balancier qu'on sait faire. Et ils vont adapter la structure de l'Église à la situation présente. Avant, il y avait 12 apôtres et c'était très bien. Maintenant, il y a 12 apôtres et 7 diacres et c'est très bien. Et ensuite, il y aura encore d'autres manières de fonctionner dans l'Église et ça sera très bien aussi. Ce qui compte, est-ce que nous accomplissons les missions de l'Église? Le mot diacre veut dire simplement serviteur. Serviteur. C'est le même mot que ministre en français. Ministre, c'est un serviteur. Hein. Diacre, c'est le mot grec. Ministre, c'est le mot latin. Enfin, ça vient. Bon. Des serviteurs à qui on va demander de faire un travail précis, qui est tout le travail social. Quand on parle du service aux tables, c'est bien ça. Hein. C'est tout le travail social. On ne considère pas que c'est un sous-job. On considère simplement qu'il nous faut absolument se donner les moyens de faire toutes les choses importantes. Et voyez qu'on va demander pour ces diacres à peu près les mêmes qualifications que pour les apôtres. Des gens remplis du Saint-Esprit, des gens dignes de confiance. C'est particulièrement important parce que c'est eux qui vont gérer les sous, hein. Mais aussi des gens pleins de sagesse. C'est difficile d'aider sans rabaisser, sans paternalisme, sans pitié. C'est compliqué d'aider. Hein. Voilà, j'en arrive enfin à la conclusion. Il y a des situations où il faut agir et des situations où il ne faut surtout pas agir. Le fait que quelqu'un quelque part ait hérité, c'est rarement un critère suffisant. Il faut écouter. Parfois l'irritation est justifiée et parfois elle ne l'est pas. On voit ici que quand quelqu'un est négligé, il faut évidemment ne pas se taire. Mais il y a d'autres raisons qui font qu'on peut être irrité. Et très souvent, simplement, parce que j'avais envie que les choses se passent d'une manière et ça se passe autrement. La croissance en nombre est toujours une bonne chose, mais ça implique toujours des ajustements. Si une famille ne modifie pas sa manière de fonctionner lorsqu'il y a un mariage ou une naissance, il y a un vrai problème. On doit tous s'adapter quand il y a croissance. À nous de trouver une bonne solution pour faire notre travail dans la situation qui est là aujourd'hui. Continuer à enseigner la parole de Dieu, à prier, à s'entraider, à fêter la croix. On nous rappelle dans ces passages que personne ne peut tout faire tout seul. Le grand conseil a besoin des conseils de Gamaliel. Les apôtres ont besoin de responsables issus de la diaspora. Nous avons tous besoin d'une équipe. Et quand je dis une équipe, c'est une vraie équipe, parce que nous avons tous tendance à nous entourer par des gens qui pensent comme nous. Donc ce n'est pas une équipe. C'est juste un clan de gens qui s'aiment bien. Nous devons faire une équipe de gens complémentaires pour pouvoir répondre aux missions que Dieu nous a confiées. Nous avons souvent tendance à dire qu'on doit augmenter notre temps de travail ou nos compétences. La réponse de la parole de Dieu dans ce passage-ci, c'est qu'il faut peut-être trouver quelqu'un complémentaire. Dieu nous a donné un appel et des dons, faisons-le et laissons la place à d'autres qui ont reçu d'autres dons et d'autres appels. Voilà, je vous invite à prier.